Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
Binge.
Allez, c'est parti.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, ça y est, enfin choisi son cartable, rempli sa trousse, fait le tri dans ses cahiers, et finalement prêt à affronter la rentrée avec toute la vigueur qu'elle réclame. Enfin, presque, puisqu'avant de reprendre notre rythme régulier de croisière, nous allons consacrer l'épisode du jour à nos attentes, nos envies, bref, à ce que nous réserve la fin d'année en cinéma, et au passage, on glissera quelques mots sur les films que nous avons vus et aimés durant la pause estivale, un programme et un bilan à la fois, grosses ambitions et donc gros casting pour l'occasion, puisqu'ils sont trois valeureux écoliers autour de la table ici à l'antenne Paris. Alexandre Ravo, salut Alex.
Salut Thomas.
Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné, épisode 150, et oui déjà, et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Plus que 4 petits mois avant que 2018 ne tire sa révérence, mais encore plein de cinéma en vue pour nous d'ici là. Predator, Halloween, Les Frères Sisters, mais aussi Aquaman, Venom, Bohemian Rhapsody, Mortal Engines ou encore Carnage chez les Puppets, The House That Jack Built ou Mirai, ma petite sœur, histoire de toucher à tous les registres. Bref, bien des choses à voir, bien ou pas bien d'ailleurs, on verra. Qu'est-ce que... Et voilà, je m'en étouffe direct. Qu'est-ce qui... Rigolez pas, c'est pas drôle d'être malade au mois de septembre. Qu'est-ce qui vous fait envie avant tout, les amis? Tiens, Perrine, au lieu de glousser bêtement.
Ah oui, alors qu'est-ce qui me fait envie dans les...
Dans les mois qui viennent. Dans la liste que je viens de faire. Hein.
C'était, parce que c'est marrant, dans la liste que t'as fait,
il y en a pas un seul.
Il y en a très peu. Non, il y en a vraiment très peu, peut-être ou parce que... trop attendu ou que je considérais moins... Voilà, c'est ça, on va moins développer là-dessus. Tout récemment, tout bientôt, on a le Noé, vraiment bientôt, puisqu'il sort, je pense, le 19 septembre, exactement. Mm-hmm. Donc vraiment bientôt, le climax de Gaspard Noé, qui avait été présenté à Cannes cette année. Spoiler alerte, moi je l'avais déjà vu à Cannes, mais je recommande parce que c'est un petit peu Gaspard Noé en résumé. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait jamais vu un Gaspard Noé, je pense qu'il peut aller voir Climax, il comprendra un petit peu quel est le bonhomme, à peu près toute la teneur de son cinéma. Donc c'est un film que c'est pas le meilleur Gaspard Noé, mais par contre c'est un bien pour les newbies en Gaspard Noé. Je dis beaucoup de fois Gaspard Noé.
C'est qui le réal de ce film déjà?
Je ne sais plus.
On oublie à force.
Sophia Boutella, je ne sais pas. Donc, il joue bien sûr dedans. Après, il y a beaucoup de films. Est-ce qu'on marche par mois? Est-ce qu'on marche par.
Non, tu peux nous en donner déjà.
Par
ou
durée,
deux,
s'il te plaît.
Par durée.
Des films de 93 minutes, on peut
les classer. Voilà, t'es les classé par durée. Non, donne-nous déjà.
En fait, Arnaud, il vient faire sa liste.
Commencer. Alex, il va faire
sa liste.
Qu'est-ce que je vois?
Il prend des notes.
Il y a un petit film. J'aime bien l'univers Warner. Enfin, comment dire, Warner, les dessins animés Warner, le fameux, s'appelle le WAG, je crois, enfin le Warner Animation, voilà, c'est peut-être pas le WAG, mais en tout cas, voilà, la partie animation de Warner m'intéresse particulièrement, et ils avaient fait un film qui s'appelait Storks, Cigogne et compagnie, que j'avais trouvé absolument extraordinaire, et là ils sortent Yeti et compagnie, et donc ce qui reste un petit peu sur l'idée de la compagnie, visiblement, mais ça n'a rien à voir en anglais, et donc Yeti et compagnie sur un Yeti, donc qui toute une bande de Yeti qui ne croit pas en l'être humain. Et à un moment donné, il y en a un qui va affirmer qu'il a vu un être humain pour de vrai et il va tout faire pour prouver que les humains existent, enfin ce qu'ils appellent des petits pieds. Enfin, des petits pieds. Donc, parce que ça m'a fait aussi penser au film Petit pied.
Oui, voilà, évidemment. Le petit dinosaure.
Mais j'aime bien l'idée d'inverser.
Beaucoup de larmes,
j'évolue, tout ça. Quoi. Et donc, voilà.
De quoi vous parlez là?
Petit pied.
Tu es trop vieux, Stéphane.
Le petit dinosaure.
Voilà. Voilà. Tu es trop vieux, Stéphane.
C'était très, très bien.
C'était bien.
Mais voilà, donc Yeti et compagnie. Voilà,
c'est pour Spielberg.
Mais j'aime bien l'idée voilà, de cette inversion de l'idée du mythe du Yeti. Oui. Et à mon avis, encore une fois, ce sera assez intelligent avec des gags de haut vol qui concerneront autant les petits au niveau du rythme et au niveau du gag visuel que les grands pour les références et surtout le message derrière que c'est toujours texte. Assez développé chez Warner.
C'est pour quand ça ?
Alors, c'est le 17 octobre.
Très
17
bien.
Octobre, voilà, c'est le film d'Halloween des petits. Je pense.
Parfait, parfait. On se le note pour Halloween. Stéphane, toi, j'imagine que tes attentes sont tout à fait autres.
Que Yeti et compagnie.
Que Yeti et compagnie. Ouais. Quoique Yeti et compagnie, je t'imagine assez bien.
Bah, j'ai pas vu le
histoire
précédent.
Il
n'y a pas de précédent, en fait.
Ah, c'est pas la suite de Cigogne et compagnie ?
Non. Non, non, c'est juste qu'ils n'ont pas été très originaux au niveau du titre.
Voilà.
D'accord. Ah ouais, c'est comme Frangin malgré eux.
C'est ça.
Bidule malgré eux.
Voilà.
D'accord. Mes attentes. C'est très difficile pour moi, comme tu le sais très bien, parce qu'en général, j'aime à peu près 3 films par an.
Ouais.
Donc, si tu veux, c'est.
En général, t'en as déjà aimé combien cette année ?
2, 3.
Ouais, donc c'est
un peu tendu.
On est presque à la limite, là.
Voilà, quoi. Dans les gros films en fait qui sortent dans les mois à venir, t'as Predator déjà de Shane Black, que j'ai déjà vu,
oui.
Dont on parlera vraiment plus en détail
lors d'une émission,
voilà.
Bien sûr.
Je pense que le seul truc qu'il faut peut-être prévenir les gens, c'est que c'est un film à problème. C'est-à-dire il y a beaucoup de défauts évidents dans le film en fait, c'est-à-dire dans le sens où c'est un film qui, je pense, en Shane Black a un peu perdu le contrôle ici et là, quoi. Notamment au niveau des coupes, donc ça se voit un peu. C'est aussi un film un peu... En fait, c'est un film qui fonctionne sur deux niveaux, c'est-à-dire que t'as à la fois l'histoire que Shane Black essaie de raconter et à la fois le Predator qu'il essaie d'intégrer dedans, tout en essayant de faire évoluer la mythologie. Et ça se marie pas toujours super bien. Voilà, ça reste un super spectacle. Moi, je trouve, en fait, vraiment, c'est gore, c'est bourré de punchline, les persos, ils sont super charismatiques. Et t'as une certaine écriture en fait, un certain panache en fait dans tout ça qui fonctionne plutôt bien, quoi. Le Uber Predator qui est vraiment une réussite en fait et qui est, je trouve, un des trucs aussi qui est peut-être qui était peut-être plus inattendu, je trouve, parce que c'était un peu l'endroit sur lequel on attendait. Mais pour toutes ces réussites là, il y a plein de problèmes en fait, mais voilà, on en reparlera.
Dans
mais
ça reste,
moi je trouve, ça reste recommandable. C'est pas le meilleur Shane Black. Voilà. Dans les grosses attentes, le mot est peut-être un peu fort.
calmons-nous.
Voilà, mais bon, la bande-annonce est plutôt sympa, donc j'ai envie de voir ce que ça va donner. Puis je pense que c'est difficile de passer derrière Michael Bay quand même, donc le Bumblebee.
J'attendais. Parlé de Bumblebee.
Mais qui je pense en fait peut être assez sympa parce que c'est le réalisateur de Kubo et qui était plutôt un chouette film.
Un très bon film.
Voilà.
Kubo et l'armure magique.
Exactement. Le fait qui passe en live, c'est peut-être un peu le truc qui risque de pêcher. L'autre truc qui risque
mais
de pêcher,
c'est du live,
c'est...
avec des gros robots, donc on retrouve une partie de animation quasiment. On va dire.
Ouais, le truc qui peut pêcher aussi, c'est qu'à mon avis, en fait, vu que le précédent a très très mal marché, je pense qu'il a vraiment le studio sur le cul pour que ça, pour que celui-ci cartonne, quoi. Et du coup, ça peut faire peur, en fait.
Ouais.
Voilà. Maintenant, c'est un truc qui se passe dans les années 80, qui se veut un peu rétro. Ouais. La gamine est super, c'est une bonne actrice. Voilà, donc là, ça a l'air de coller avec le personnage, ça peut être plutôt cool, quoi. On n'en sait pas beaucoup plus que ça, quoi, sur le film, mais voilà. Après, ça reste quand même le 6e Transformer en 10 ans, donc ça fait beaucoup et il y a quand même des chances que... Voilà,
Est-ce que ce sera le Transformer de trop ?
Bah, il y en a déjà eu, à mon avis, 3
trop.
Est-ce
qu'il y en a déjà eu
déjà 3 trop ? Quand tu réfléchis, quoi, tu vois, donc voilà, quoi, parce que tout n'a pas été dit au milieu du 2, tu vois, je pense, sur le sujet.
Possiblement.
Quoi. Donc voilà, et puis moi, ma très grosse attente, parce que j'espère, enfin, c'est qui tout double, ça sort, je crois, en début d'année par contre, c'est vraiment...
Début janvier.
C'est le Glass de Shyamalan.
Oui. Ouais.
Que ça fait 20 ans qu'on attend le film.
Ouais.
Parce que.
Qui est donc, pour rappeler, c'est la
suite
d'Incassable. Voilà. Même si c'est la suite de Split. C'est aussi la suite
d'Incassable. Ouais, voilà. Mais qui était en fait la suite de.
La suite de Split qui était le préquel à la suite d'Incassable.
Voilà,
en gros.
Et qui est aussi le spin-off d'Incassable. Donc, du
c'est
coup,
ça.
Peut-être que. Voilà.
Oh, super. Ça ressemble à un scénario de Shyamalan.
Ouais. Mais je pense que c'est un peu la façon dont il a vendu le spin-off.
Très clairement.
De, voilà.
Je pense qu'il a parlé pendant une demi-heure, au bout d'un moment, les studios ont fait « Oh, ok, vas-y écoute, tu sais quoi ?»
Non, mais attendez,
tiens.
À la fin, il y a ça.
Non, non, c'est
tout,
pas
genre.
Grave, tiens,
à la fin,
voilà
bon
un chèque.
Et voilà, en fait, la bande-annonce, je trouve, est assez efficace.
C'est vrai.
j'aime l'idée, en fait, enfin, le fait qu'on les voit tous les trois dans l'asile psychiatrique, ce genre de choses, quoi. Moi, c'est qui tout double dans le sens où, certes, moi, j'aime bien Split, enfin, j'aime beaucoup Split, c'est pas du niveau d'Incassable, hein, clairement, mais je trouve ça plutôt réussi, et surtout plutôt réussi par rapport. Enfin, si tu les compares,
là où on était arrivé,
on va dire les 5 précédents, enfin, qui sont quand même assez, oui, assez chaud patate, quoi. Et voilà. Donc le truc, c'est que comme ce succès, en fait, comme Shyamalan, j'ai quand même l'impression que c'est un mec qui réagit au film précédent et à la réception du film précédent. C'est ça qui me fait un peu peur. Oui. Le truc, c'est que d'après ce que j'ai compris, les prémices en fait du film sont de toute façon avaient déjà été mis en place, comme d'ailleurs c'était le cas dans Split. Oui. Vraiment à la sortie d'Incassable, au moment où il était en train de le faire, il a plus ou moins de la matière pour faire 3 films. C'était sa trilogie, la trilogie d'origine qu'il voulait faire. Donc on peut espérer que, comment dire, il se base sur ces choses-là, oui, pour avancer, quoi. Voilà. Et, mais en tout cas, c'est un des trucs où je suis vraiment, vraiment... je me dis, il y a un projet demain, je dis, ah, ok, j'y vais.
Tu vas. Ok, très bien. Bon, on a déjà, on amorce le début d'année 2019. Il y aura aussi un Zemeckis au début 2019, je te rappelle, qui a l'air très, très chouette. Alexandre.
Alors, moi, je vais faire des petites sélections, plusieurs salles, plusieurs ambiances.
Mon Dieu, allez, je crois le pire.
Non, mais en regardant le calendrier des sorties, l'agenda des sorties à venir, j'ai constaté qu'un film... que j'attends avec impatience va sortir beaucoup plus tôt que ce que je croyais, parce que je l'imaginais, ouais, pour 2019. En fait, non, c'est le 26 septembre que sort Un peuple et son roi, film français de Pierre Scholler. Pierre Scholler, c'est lui qui avait fait l'excellent L'exercice de l'État, avec Michel Blanc, ministre et tout. Il y avait une scène d'accident.
Non, Michel Blanc n'était pas ministre, il était directeur de cabinet.
Oui, pardon, il était directeur de cabinet, c'était Olivier Gourmet, le ministre.
Tout à fait.
Tout à fait. Voilà.
Et, il s'appelait Gilles, même, Michel Blanc, dans le film.
Oui, bon, bah, si on peut parler longtemps de ce film, oh, merde.
J'adore
non,
ce
mais,
film.
Non, mais Un peuple et son roi, pour rappeler l'histoire, donc ça, ça se passe dans les. Ça se passe en 1789, n'est-ce pas? Et il y a y a un casting assez important. On retrouve Olivier Gourmet, il y a aussi Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Louis Garrel,
Stéphane Moïsakis vient de partir.
Céline Salette.
Mais moi, on m'a dit que c'était bien, hein, L'exercice de l'État.
Il y a Denis Lavant qui joue Marat. C'est écrit et réalisé par Scholler. Et tu as aussi le casting le plus, dans la bande-annonce, qui est assez alléchante, le casting le plus titillant, c'est Laurent Lafitte en Louis XVI. Et donc quand j'ai vu ces images-là, je me suis dit ouais, ok, on a un budget avec il y a des plans très ambitieux dedans. On sent qu'il y a quelque chose qui a été. On n'est pas sûr. Bon, je sais pas ce que vaut le film, je ne l'ai pas vu, mais le récent film d'Emmanuel Mouret avec Edouard Baird et Cécile de France,
Mademoiselle
de Jonquière, qui est peut-être très bien, mais quand tu vois la bande annonce, tu penses que ça a été tourné en lumière naturelle au château de Fontainebleau, tu vois. C'est quand même pas très très allé. Échange, je dirais, esthétiquement parlant, mais ça ne présage en rien des qualités du film. Là, dès la bande-annonce, tu as ce côté très soigné, le soin qu'a apporté au mouvement de caméra, à l'ampleur des scènes, de foule, etc., d'exécution. Donc bon, je pense que le film, il aura peut-être sans doute des défauts, mais il a une ambition qui me séduit beaucoup. Donc voilà.
Un
peuple et son roi, le 26
très bien,
septembre.
Très bien. Ce sera peut-être un film français dont on parlera dans nos ciné.
Peut-être. Sait-on jamais.
Ouais, on avait parlé du Faucon. Hein.
C'est vrai qu'on a parlé du Faucon.
C'est bien chaque émission.
Quelle grande émission. Une grande émission.
Autre film que j'attends, mais plus pour le côté.
Il n'y a pas Charles Berling dans Un peuple et son roi, c'est ça?
Non, je crois pas.
Toujours pas Charles Berling.
Toujours pas Charles Berling. Non, mais je sais, je fais exprès. Quand même, là, j'ai fini.
C'est un gag. Un film que j'attends, mais presque avec une... C'est comme quand tu regardes un accident sur la route et que tu veux voir ce qui reste, s'il n'y a pas des petits bouts de membres sur l'autoroute, sur le macadam. C'est le Bohemian Rhapsody de Bryan Singer.
Très bien. Bonne analogie, effectivement.
Il n'est plus de Bryan Singer.
Bah, non, si, de fait,
officiellement,
il est de Bryan Singer.
Il a gardé son crédit et le réalisateur qui est venu le remplacer quasiment à la mi-tournage n'est même pas crédité officiellement. Donc, ça doit être des histoires assez compliquées de négociations avec le syndicat des réalisateurs et tout. Et ouais, donc rappelons que Bryan Singer, Usual Suspect, X-Men et compagnie, qui réalise ce biopic de Freddie Mercury, fait en total, on va pas s'attendre à des trucs très, je pense, piquants ou sur la personnalité de Mercury et surtout sur le groupe Queen, puisqu'ils sont partie prenante du truc, coproducteurs, etc. Donc bon, les bonnes annonces sont parfois un peu flippantes parce que t'as l'impression que, alors que l'histoire de Freddie Mercury est quand même connue et reconnue, t'as l'impression qu'ils ils évacuent presque le fait qu'il était homo, qu'il est mort du sida. Bon, c'est un peu bizarre. T'as même par une astuce de montage dans un des trailers, ils suggèrent même une idylle hétérosexuelle.
Et il en a eu, hein, ceci dit.
Cela dit, il en a eu effectivement.
Il était bisexuel. Hein.
Cela dit, effectivement, mais tu connais vraiment beaucoup mieux la sexualité des chanteurs britanniques que moi.
Ouais. C'est un bon domaine d'expertise.
Mais bon, donc j'attends de le voir ça. Toutes les images qui ont fuité avant même les premiers matos promotionnels témoignaient déjà de la ressemblance assez frappante
de Rami Malek
et Mr. Robot, oui, qui joue donc le personnage de Freddie Mercury. Oui. J'ai envie de voir le film, ça sort fin octobre. Je me dis, soit ce sera un ratage assez fascinant, soit sur un malentendu, l'équilibre a pu être maintenu malgré ou grâce au départ de Singer. Et enfin, dernière...
Quand ils font sur les trailers, quand ils enregistrent Bohemian Rhapsody, moi je pense directement au sketch des Muppets, donc c'est mort en fait.
Ah,
c'est fini, je pourrais plus.
De toute façon, cette chanson a été inventée pour ce sketch.
Oui, ouais, voilà. De toute façon, elle a été faite pour ce sketch.
J'espère, non, s'il n'y a pas Mike Myers dedans qui... Non, par rapport à Wentworth, non, je pense pas.
Et
bien. Enfin, le dernier film qui me titille, mais bon, c'est vraiment une sélection totalement subjective aléatoire. Tu vois que c'est un remake, et en plus un remake d'un chef-d'œuvre que je porte en estime très 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 fort. C'est Suspiria. Il sort mi-novembre, le 14 novembre.
Ah,
Suspiria,
ouais,
de Luca Guadagnino, dont j'avais pas forcément trop aimé le Call Me By Your Name. J'avais trouvé la hype un poil surcotée. Mais toutes les images, Tilda Swinton qui a l'air d'être potentiellement une nouvelle future figure assez iconique de l'horreur. Moi, je pense qu'il faut tout de suite partir du principe que c'est, même si ça en a le titre et que c'est l'inspiration, évidemment, moi je m'attends pas, je vais pas aller voir ce film là ou en tout cas je vais pas l'analyser à l'aune du film de Dario Argento. Je vais pas essayer de le voir comme je vais essayer de ne pas le comparer, et je vais vraiment y aller avec l'esprit ouvert, parce que tout ce que les différents extraits, bandes annonces ont dévoilé du film déjà ne ressemble pas au film d'Argento.
Ouais, ça, c'est rien de le dire. Hein.
Ça, c'est rien de le dire.
Non, mais c'est pas grave.
Et tant mieux. Et par contre, ça tease à fond, mais au sens propre du terme. C'est vraiment, ça m'a mis en appétit quand j'ai vu ce truc-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film de ce mec-là, en plus, dont j'attendais vraiment plus grand-chose. Et voilà, j'ai hâte.
Très bien. Ferrine, tu voulais rajouter quelque chose sur Suspiria?
Non, mais sur un autre film.
Halloween
Ah oui, il y a Halloween,
il faut
évidemment.
Il faudra qu'on parle d'Halloween à un moment. On en parlera après, vas-y.
D'accord,
Périne.
Parce que sinon, j'avais... En fait, il y a deux films que j'attends pour deux raisons très différentes. Il y a un nouveau Robin des Bois, une nouvelle adaptation de Robin des Bois.
Pourquoi pas répéter 18 fois la même erreur.
Exactement.
Toujours.
Mais en fait, me dis, en voyant la bande-annonce, donc avec Taron Egerton, avec... il y a Jamie Foxx. Enfin, je me dis... Ça va être, si c'est au niveau de degré de n'importe quoi du roi Arthur de Guy Ritchie, moi je prends à 100% en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que vraiment.
Celui avec les dragons à la fin.
Moi je crois que c'est mon kink à la Stephen Sommers en fait. C'est-à-dire que vraiment, j'apprécie ces trucs qui vont très très loin, trop loin.
Ah
et
oui,
je
là,
me dis qu'avec un peu de chance,
loin, ouais.
on va aller aussi loin avec ce Robin des Bois. Donc j'y crois un tout petit peu.
Et la bande-annonce fait très très peur.
Elle fait super peur. Mais j'aime bien le casting.
Moi je peux pas être excité par ces trucs-là parce que je joue aux jeux vidéo, moi, tu vois. Donc je les vois tout le temps, des trucs comme ça en fait, des trucs avec des mecs qui font n'importe quoi, des vols planés, et puis des explosions partout dans des trucs médiévaux, techno-médiévales, on dirait Beowulf le truc, quoi. C'est ça, avec Lambert. Hein.
Donc
c'est chaud quand même. Hein.
Ah, moi je suis curieuse vraiment de ça, et le deuxième film qui pour le coup est moins, je l'attends moins par
crypto-perversion,
c'est Les Veuves en fait, le film de Alexander McQueen.
Steve
McQueen, pourquoi je l'appelais Alexander?
Je ne sais pas.
Parce que j'ai écrit. Parce que j'aime bien la... Ouais, c'est ça. Puis j'aime la mode. J'en sais rien. Et donc, Les Veuves de Steve McQueen, où je trouve qu'il quitte un certain univers vraiment terriblement lourd et dramatique.
Ça a l'air assez lourd et dramatique quand même.
Ça a l'air assez lourd et dramatique, mais quand même avec cette idée de ces femmes qui donc vont s'allier, qui n'ont rien à voir entre elles. Donc Viola Davis, Elisabeth Debicki, Michelle Rodriguez, pour en citer quelques-unes, qui vont s'allier pour récupérer de l'argent parce qu'elles sont en dette à cause de ce qu'on fait leur mari,
Si c'était ça le vrai Ocean's 8.
Mais en fait, et c'est un peu, c'est un petit peu ce que je me suis dit en voyant la bande annonce et en voyant le pitch. Et bien sûr, il y aura quelque chose de beaucoup plus, voilà, beaucoup plus ancré dans une forme de réalité, de drame chez Steve McQueen et Liam Neeson et Colin Farrell.
Toujours Liam Neeson.
Mais en fait, non, voilà, le casting est alléchant, le projet est alléchant. J'aime bien l'idée de voir ces actrices-là jouer à l'idée de faire un cast. En soi, je suis très très curieuse et surtout avec voir Steve McQueen quitter une sorte de zone de confort pour aller dans quelque chose d'assez différent et en même temps, je l'espère me surprendre. Non, vraiment, je suis très très curieuse des veuves en fait. Ça a l'air assez passionnant et ça sort le 28 novembre.
Seule personne au monde qui qualifie 12 Years a Slave de zone de confort.
Moi, j'étais dans mes petits chaussons.
C'était bien, c'était un film agréable finalement. Voilà, film, on passe un bon moment. Ouais. Stéphane.
Moi,
non,
quoi,
ouais,
non,
je ne sais
pas,
tu veux parler d'Halloween.
Moi, je l'attends pas trop, Halloween, parce que ça fait un peu 40 balais qu'on te fait un Halloween à peu près tous les je sais pas combien. Donc, au bout d'un moment, c'est un peu tous les mêmes films, mais en raté, puisque ça n'a pas la force du
premier,
du Carpenter. Là, leur logique, en fait, c'est de faire en gros la vraie suite d'Halloween, mais moi, j'ai l'impression qu'elle avait déjà été faite il y a 20 ans avec Halloween H2O, tu vois, qui était bien pourrie. Donc voilà.
Et avec Halloween 2 aussi, au passage, qui était la suite déjà d'Halloween.
Ouais, mais qui est quand même un peu plus... Enfin, c'est pas terrible, mais c'est quand même un peu
c'est
mieux
un peu
que Halloween
dans la lignée avec H2O.
Et là, l'idée, si tu veux, c'est que... Donc,
est-ce
en
que Jamie Lee Curtis va encore mourir pour une troisième fois?
Ouais, je sais pas. C'est une bonne question.
Mais
en fait, en tout cas, par contre,
cintre.
Ce qui est bien, c'est qu'elle elle a l'air bien, elle, dans le film.
Oui, c'est-à-dire elle est assez badass.
Voilà, il joue sur son âge. C'est quand même c'est une reine, quoi. Tu vois,
bien sûr.
Jamie Curtis, moi, j'adore.
C'est King Queen.
Et c'est une putain d'actrice et tout, quoi. Et vraiment sous-estimée. Et voilà, donc
dans cette pièce.
Pas dans cette pièce, mais de manière générale. Enfin, tu vois bien que c'est quelqu'un qui en fait rien, quoi. Tu vois, c'est pas Meryl Streep, hein. Elle n'est pas aux Oscars tous les ans. Donc voilà.
Pourtant, c'est pas normal.
True Lies, Freaky Friday, tu vois. C'est le bon film, quoi.
C'est bien Freaky Friday.
Ouais. Et ok. Et donc voilà. Donc ouais, j'ai pas une grosse attente. La dernière bande annonce, je me suis dit, tiens, il y a un plan séquence. Donc je me suis dit, bon, c'est toujours ça,
pourquoi
toujours
pas
ça à prendre, quoi. Pourquoi pas. J'ai pas de problème avec le réel en soi. Hein,
David Gordon Green.
Voilà, qui fait des films, ça dépend, quoi.
Ouais,
c'est aléatoire, mais comment ça s'appelle.
Qui fait une excellente série, qui s'appelle Red Hawks, qui est vraiment très bien.
Joe, c'était pas mal, avec Nicolas Cage. Là,
Pineapple Express, c'est rigolo.
Pineapple Express, c'est rigolo, ouais, mais c'est un peu foutraque.
Non, c'est un peu naze.
Voilà,
mais
quoi.
C'est pas lui qui a fait Votre Majesté aussi. Qu'est-ce que c'était con.
Avec Danny McBride.
C'est un peu un mec, ouais, ça c'est nul.
C'est le grand pote de Danny McBride qui co-écrit Halloween.
C'est un peu le truc un peu étrange en fait du projet. Et puis bon, c'est enfin voilà, donc je sais pas, je t'avoue que moi ce film là il me laisse un peu dubitatif. J'ai envie de dire, est-ce qu'on n'a pas envie de lâcher l'affaire un peu là, à un moment donné, au lieu de refaire tout le temps la même chose, quoi. En plus là, les premiers retours, c'est on peut pas faire meilleur comme remake qui n'est pas un remake. Je fais ouais, d'accord, ok. Donc déjà tu vas être obligé de le comparer. Alors, effectivement, contrairement à Suspiria, tu vois, où tu pourras vraiment lâcher prise et pas penser au film d'Argento, là ça va quand même être vachement difficile, d'autant que Carpenter, et c'est le truc que j'attends, fait la zic, quoi.
Donc, et producteur donc, exécutif du film.
Ouais, bon, ça. Il était producteur exécutif sur The Fog, le remake de The Fog, ce genre de conneries. Hein, donc,
on n'a pas trop d'illusions.
Ça fonctionne d'une certaine manière, c'est-à-dire que comme les mecs ont un crédit de scénariste, à la base, ils sont les créateurs de cette univers-là, c'est le cas de Carpenter sur The Fog, c'est le cas de Carpenter sur Halloween, tout ça. Forcément, du coup, en fait, il le crédite d'une manière.
Après,
ou d'une autre,
McBride a dit, il peut très bien juste le dire pour la galerie, mais en tout cas, il l'a dit en interview, que chaque élément clé du script était passé par Carpenter à chaque fois pour lui demander s'il trouvait que c'était cohérent par rapport à l'univers qu'il avait créé, s'il trouvait que c'était bien ou pas.
Enfin, voilà. Moi, j'adore Carpenter, hein, mais à mon avis, la valide, elle s'est faite avec une manette de PlayStation.
C'est ça.
Oui,
si
oui,
tu
non,
veux,
je
en
suis
train
bien,
de faire,
je
ouais,
suis
si
bien
tu
d'accord.
Veux, ouais, parce que Carpenter,
il
s'en bat les
couilles.
C'est aussi le truc, c'est aussi ce qui a fait la qualité de son cinéma à une époque, c'est qu'il s'en battait les couilles quand on venait le faire chier pour quand les studios venaient le faire chier, les couilles, tu vois. Mais là, c'est pareil, en fait, il est passé de l'autre côté, il veut plus faire le cinéma, ça l'intéresse plus, et je pense que en fait, ça a fonctionné avec le chèque, tu vois. Ouais. Mais bon, tu vois, c'est pas en fait, moi j'attends pas du Carpenter dans un film qui n'est pas de Carpenter,
non.
Donc comme ça, c'est réglé, si tu veux. Ouais. Mais le seul truc, c'est la zic où je me dis, bon, peut-être qu'il va s'éclater avec ça, quoi.
Non, la BO sera cool, ça, on n'en doute pas. Halloween, oui, non, mais ça, non, mais je connais le thème, c'est pas besoin de le chanter, je te demande ton avis plutôt.
Écoute, moi j'ai assez peur, mais comme je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Stéphane, donc je vais pas le répéter. Effectivement, le seul truc que j'attends, c'est de voir à quelle sauce ils vont conclure le film parce que bon, c'est quand même Jason Blum qui produit avec Miramax, etc. Donc c'est quand même des gens qui aiment bien exploiter les franchises qui lancent. Ouais. Et est-ce que on sait qu'il y a un casting féminin multigénérationnel, donc est-ce que ça va être finalement une sorte de porte d'entrée vers une énième nouvelle franchise? Mais en tout cas, si c'était le cas, ça voudrait dire que Michael Myers ne serait pas mort. Enfin bon.
Enfin, apparemment, ils ont annoncé que c'était le dernier. Hein.
Ouais.
Ils ont dit que c'est le point final. Hein. Maintenant, bon, enfin, c'est ce qu'ils avaient annoncé avec le 20, c'est ce qu'ils avaient annoncé avec Resurrection, c'est ce qu'ils avaient annoncé avec Walla. Donc, tu sais, au bout d'un moment.
C'était lequel où il y avait Trick or Treat Motherfuckers, une espèce de. Avec un rappeur complètement nul à chier, je crois que c'était l'avant-dernier. Resurrection, Halloween Resurrection.
Le remake du Voyeur de.
Ah, c'est horrible, c'est infernal. Infernal.
Non mais enfin de toute façon le problème de ce truc là c'est que tant qu'en fait on peut utiliser le personnage de Michael Myers et n'importe qui peut le jouer tu vois enfin je veux dire ils peuvent faire autant de films qu'ils veulent
Ils ont toujours pas casté Mike Myers pour jouer Michael Myers et ça c'est quand même une déception. Perrine, tu voulais rajouter quelque chose? Pas forcément.
Non, pas
tu n'es pas obligé.
Non, pas
tu
forcément.
Peux enchaîner, tu peux embrayer sur autre chose si tu veux.
Je suis d'accord avec ce qu'ont dit les garçons et moi je reste curieuse parce que j'aime le premier Halloween, évidemment, comme tout le monde autour de cette table. Et en effet, moi, je suis très contente de retrouver Jamie Lee Curtis dedans. C'est ça qui m'intéresse, en effet. C'est le seul point qui m'intéresse le plus dans cette histoire. Et aussi le fait que, sur les images qu'on a vues, il a encore le trou du cintre dans le cou. Ce que je trouve...
Une belle ref.
Ouais, moi, j'ai bien aimé. Ça m'a fait plaisir de voir ça. Donc après, voilà, non, c'est juste... C'est de la pure curiosité. Et j'ai pas envie d'arriver déjà avec des flingues, en fait. Je voudrais juste un petit peu... essayer d'être un peu honnête vis-à-vis de cette suite. Et non, si je devais rajouter un film que j'attends bien, c'est Les Animaux Fantastiques, le nouveau Les Animaux Fantastiques, parce que honnêtement, j'avais été très surprise par le premier volet, qui était sorti, je sais plus, il y a 2-3 ans.
2 ans.
Et de David Yates, déjà, hein, qui connaît bien l'univers Harry Potter, hein, pour le coup, lui, ça va, ça sera sa carrière. Mais étonnamment, le film avait été déjà excessivement bien casté, excessivement bien réalisé. Une idée à la minute, merveilleux. Il avait un sens du merveilleux, ce film, ce qui était assez grandiose. Et je trouvais ça génial que dans un univers à la Harry Potter, on continue à nous émerveiller, à nous faire découvrir des nouvelles choses. Quand on rentre dans la valise, dans le 1, j'avais trouvé ça vraiment splendide. Et la fin, elle était toute ténue, toute en intelligence sur les personnages. Et j'attends vraiment beaucoup du 2, même si j'ai une crainte qui est Johnny Depp dans cette histoire, qui pour le coup n'est pas forcément... Je trouve que c'est légèrement un miscast en fait, par rapport à ce personnage, parce que j'ai un peu peur qu'il surjoue encore une fois je ne sais plus comment ça s'appelle, le personnage Grimbach ou un truc dans ce coup-là. En tout cas, voilà, j'ai un tout petit peur du surjeu, j'ai un petit peu peur de la parodie. Et la petite chose qui m'inquiète, là où je trouve que tous les autres personnages avaient incarner quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas imaginé auparavant. En tout cas, surtout pour moi qui n'avais même pas lu ces livres-là. Donc non, je trouve que c'est vraiment un film que j'attends avec beaucoup d'impatience et sans aucune... Et n'étant pas non plus une Potter fan à mort. Quoi.
On n'est pas la seule. Je partage complètement son enthousiasme. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit la différence d'un autre projet de résurrection franchise Warner qui est en fait on voit la différence entre ce qu'ont été ces animaux fantastiques pour la saga Harry Potter de ce qu'a été le Hobbit pour le Seigneur des Anneaux parce que les comparaisons sont quand même assez nombreuses. On parle de franchises qui ont été plus ou moins en même temps, soit le début des années 2000 en salle, adaptées de livres comme ça, vendues à des millions d'exemplaires. C'est le même réal qui reprend après c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas eu un seul réal sur la saga Harry Potter, mais bon,
ça s'est passé là,
le même réal qui revient derrière la caméra et tout, c'est juste grâce au matériau de base de J.K. Rowling qui fait que il y a une transposition de l'univers Harry Potter, mais le fait que ce soit dans un univers totalement différent, même si l'univers en tant que tel, les bases sont les mêmes évidemment, mais l'Amérique, le New York de ces années-là, un casting complètement rafraîchi, pour moi ils ont complètement évité l'échec qu'a pu être la trilogie du Hobbit. Voilà.
Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de vos attentes? Est-ce qu'on dit un mot peut-être, vu qu'il nous reste un tout petit peu de temps, de ce que vous avez vu cet été, dont on n'a peut-être pas parlé dans les Nociné, vu que nous étions en pause estivale et qu'on a donc lâché un peu la bride des sorties. Est-ce que vous avez vu des belles choses cet été, des choses peut-être dont on n'a pas parlé? Alexandre.
On a parlé
d'Under... Je prends un peu une voix France Culture là.
On a parlé d'Under the Silver
Lake.
On a parlé
de.
Je rappelle plus, je vais peut-être me faire taper, mais on a parlé d'Under the Silver Lake ou pas?
Non, non, on n'a pas parlé d'Under the Silver Lake.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà.
J'approuve à côté.
Voilà, très bien. C'était par le Real.
Stéphane
de...
est encore parti.
Non, mais je ne l'ai pas vu.
Le Real de It Follows, David.
Robert Mitchell.
Robert Mitchell. J'ai d'ailleurs, par la même occasion, étant charmé par ce nouveau film, j'ai enfin découvert son premier film en VOD, The Myth of the American Sleepover, que j'ai trouvé aussi formidable. Donc vraiment un cinéaste qui
David Honora a détesté, hein, je vous le dis tout de suite.
Oui, bah,
je fais la voix de David Honora, mais il n'est pas là.
David Honora, il est justement sur les lieux du tournage du film, puisqu'il est en train de se la couler douce à Los Angeles au moment où on parle, je crois. Mais voilà, un film Angelino, un film déviant, qui, je peux très bien comprendre l'irritation des gens qui l'ont pas aimé, parce qu'il a quelques tics, quelques partis pris qui peuvent paraître pour un peu prétentieux, tape à l'œil, etc. Mais moi qui m'ont complètement séduit. Et autre chose dont on n'a peut-être pas trop parlé dans les recos de nos ciné de cet été, un film Netflix qui est sorti fin juin qui s'appelle Calibre, sur de deux potes londoniens qui vont faire un week-end en chasse qui tourne mal. C'est pas transcendant, mais très bien fait, très classique et très anxiogène. Donc si vous avez Netflix, Calibre.
Voilà. Très bien.
Et la grosse déception pour moi de l'été en termes de blockbuster que j'attendais avec impatience, pas non plus en m'attendant aux dents de la mer de Spielberg, mais
c'est
bon,
The Meg,
c'est ouais. The Meg en eau trouble. Ouais. Et putain, quel dos.
Alors, comment tu peux attendre un film comme ça? Déjà,
mais
la bande-annonce, elle est à chier.
Fun.
Ensuite, il y a Jason Statham.
Mais justement!
Non, Jason Statham, c'est pour mettre des kicks, c'est pas pour se battre contre des requins.
Mais des kicks à des requins.
Et c'est réalisé par John Turteltaub.
Ouais. Bah ça aurait dû me mettre effectivement la puce à l'oreille.
T'as vu un bon film de John Turteltaub, le premier qui citera Star Rocket, je l'invite à revoir le film.
Star Rocket.
Revois le film.
Je l'ai revu beaucoup de fois aussi.
Ouais. Non mais revois le film quand on regarde d'adulte. Ouais. Et donc le
impossible, temps, impossible. J'ai mon regard d'enfant dès que je mets à Star Rocket.
Ouais, je le regarde en VF.
En plus.
Ouais, moi aussi, je le regarde en VF.
Ouais. Ouais.
Bon, non, il y a des gens qui ne connaissent John Candy que par là, quoi.
C'est triste. Donc, bref, oui, The Meg, énorme déception. On n'a pas fait d'émission.
Mais il faudra qu'on en parle. On pourra en parler, en tout cas, à l'occasion d'une éventuelle émission. Je suggère ça comme ça. Pas sur les requins, non, mais sur ce mouvement de fond qui dure depuis plusieurs années à Hollywood et qui se.
Cette lame de fond,
sans mauvais jeu de mots, qui est les coprods de France. Chinois, enfin américaine, ah oui. Chinoise, parce que c'est aussi ce qui explique la médiocrité du film, c'est cette.
C'est la faute des Chinois.
Non,
bravo,
non,
Alexandre.
Ah non, mais loin de là, l'idée de porter le chapeau sur eux, mais c'est les contraintes.
Le chapeau chinois.
Oh là là,
c'est excellent.
Les
grosses têtes.
Merci
Jacques Balutin. Tu voulais dire donc les coprods,
avec chinois-américains qui sont imposés, les
type
productions,
la Grande Muraille de Chine, dont
oui,
on avait parlé
exactement,
avec Matt Damon, c'était pas le nom exact du film, mais
la Grande Muraille,
voilà. Ah, qui était bien zinzin aussi. Mais avec le recul, je préfère quand même largement la Grande Muraille.
À The Meg.
Oh, oui.
Tu veux dire que Matt Damon joue mieux que Jason Statham? C'est une révélation.
J'irais peut-être pas jusqu'à dire ça.
Mieux que le mégalodon.
Mais bon. Dans vos visionnages de cet été, Pierre Gazon.
Je me souviens plus si on avait fait quelque chose sur Dogman, mais je ne crois pas.
Non, on l'a mentionné, mais pas plus que
mais
ça. On en a parlé lors de Cannes.
Voilà, Dogman qui était donc en compétition à Cannes cette année, le film de Matteo Garrone.
Qui a eu le grand.
Qui est le prix d'interprétation.
Pour le comédien.
Ouais, Marcello, voilà. Et.
Okay.
J'ai un peu une vendue au cinéma de Matteo Garrone, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est très, très, très beau, très, très fort. Il arrive à parler de cette Italie donc ça se passe sur une espèce de station balnéaire italienne qui est en train de croupir, de mourir, clairement.
Décrépite.
Et on suit cette histoire de Marcellino, qui est un toiletteur pour chiens et qui est un petit peu dans les petits trafics, mais en fait, c'est juste pour rester dans la communauté et avoir un peu d'argent pour payer des choses à sa fille, et qui est, on peut le dire, comment
c'est
dire,
Ant-Man, tu parles de Ant-Man,
hein,
je crois.
De Ant-Man, qui est un petit peu racketté par un espèce de brute épaisse qui vit dans le coin, et jusqu'au moment où il ne pourra plus l'accepter, en plus jusqu'à un coup de trop. Et donc c'est jusqu'au bout comment on arrive à manger l'humanité de quelqu'un, comment on arrive à détruire une personne et à la déshumaniser totalement au point qu'elle commette l'irréparable. Et en même temps, ce portrait de l'Italie qui prend plus soin de ses atouts, qui son économie paravolo, qui laisse tomber sa population, qui laisse tomber tout ce qu'elle possède. Et c'est très fort, c'est très beau, c'est bouleversant. Et l'acteur donc, qui a eu Marcello Fonte, si je dis pas de bêtises, qui a eu ce prix, le mérite amplement, une espèce de Buster Keaton italien, hyper expressif, hyper émouvant. Non, c'était vraiment, moi, ça a été un de mes chocs de l'été.
Et le deuxième... personnage très étonnant, il y avait son portrait dans un numéro de Society il y a quelques mois. Et
il est un peu spé, ouais.
Il est complètement fou.
Il vit dans un cinéma, voilà, à Rome, un petit peu limite, presque en SDF. Il y a quelque chose comme ça où il vit très. Et sur le tournage, il se barrait pour retourner à Rome et vivre au lieu d'avoir la chambre d'hôtel qui lui était réservée.
Enfin, c'est pas trop le luxe et tout. Enfin, c'est assez étonnant.
Qui a une vie un petit peu à part, mais tout à fait fascinant et très, très tendre, très frêle, très doux. Et justement, quand il s'énerve, ça fait peur. Et l'autre film, moi, c'est un film qui m'a profondément perturbé cet été, et je comprends pas pourquoi ça sort l'été. Si, l'été, c'est sympa, on va à la plage, et d'un seul coup, on tombe sur Caniba, qui est un documentaire de Verena Paravel et Lucien Castin-Taylor. Voilà, j'ai peur de faire une erreur. C'est ceux qui avaient fait Léviathan, qui se passait sur un bateau de pêche, et donc on suivait le mouvement. Moi, j'ai eu du mal à suivre le film parce que j'avais la gerbe. C'est vraiment dur. Parce que voilà, ce qu'ils font comme cinéma, c'est un cinéma physique, littéralement. Ouais. Et donc, Caniba, on suit ce japonais qui, dans les années 80, avait tué
Isaï Sagawa.
Ouais, voilà, Isaï Sagawa,
oui,
c'est ça,
tout à fait.
Qui avait tué une amie à lui, française, et il l'avait mangé.
Oui.
Et là, on le retrouve maintenant, il est gravement malade. Juste avant le tournage, il a fait une sorte d'AVC, et c'est son frère qui s'occupe de lui. Le film est filmé.
C'est vrai qu'il n'a pas été en prison et qu'il a été très peu en prison et qu'il est près devenu une espèce de personnalité médiatique au Japon. C'est très étonnant.
C'est une star presque au Japon. Ouais. Il a même fait son manga, on le voit dans le film. À un moment donné, on est à 2 cm du manga en train de regarder les cases où il décrit comment il l'a mangé. C'est affreux. Et le film est filmé à littéralement, mais je pense, 3 cm de son visage. On va jamais plus loin que le bout de son nez, le grain de sa peau, sa bouche. Ça rend excessivement mal à l'aise. Mais c'est physiquement difficile à regarder. Parce que déjà, d'être aussi près de quelqu'un, personne n'est aussi près de... On ne regarde pas les gens. Enfin, j'aime aussi près des autres.
Sauf Alex Herbaum. Il est bizarre comme ça.
J'aime bien, quoi.
Mais voilà, donc il y a ce truc où on a l'impression de ne pas respirer pendant tout le film. L'univers est absolument irrespirable. Et ces deux frangins, d'un seul coup, on respire grâce à ce frère, justement, derrière, qui paraît être un peu plus sensé que l'autre qui nous décrit qu'il rêve d'être mangé par sa victime, ce qui va être compliqué. Et en fait, on s'aperçoit que le frère est tout aussi chelou, puisqu'il a un délire sexuel où il met son bras avec il entoure son bras de barbelé et il le brûle. C'est comme ça qu'il jouit.
What?
Donc voilà. Et donc, en fait, on a l'impression de regarder des choses vraiment atroces.
Mais vendu.
J'achète.
Le film est vraiment.
Bon.
Je conseillerais ça à personne, littéralement, parce que passes
pas
un bon moment.
Télécharger, là.
On peut pas passer un bon moment en regardant ça. Mais en revanche, si on veut avoir un cinéma littéralement physique, plus que la 4DX que j'ai fait sur The Meg, pour le coup, où là j'ai aussi failli jamais, mais pour d'autres raisons, là vraiment on a quelque chose d'où le cinéma n'est pas que visuel, il n'est pas que sonore, il est sous la peau, et c'est vraiment incroyable de savoir faire ça juste avec des images et ces personnages terriblement repoussants et fascinants. Cette attraction-répulsion vis-à-vis d'eux est vraiment étonnante. Donc je recommande pas Caniba, mais en même temps.
Mais en même temps un peu. C'est pas mal comme recommandation. Stéphane.
Moi, j'ai rien vu.
Ah, super. Non,
vraiment, je t'ai parlé de Indestructible 2.
On a même fait toute une émission.
Je suis pas sûr qu'on ait fait mieux de façon.
D'accord, ouais. Non, j'ai rien vu, j'ai même pas vu. Je voulais aller voir Détective D3, j'ai pas eu le temps.
Écoutez, c'est pas grave.
C'est grave quand même.
Non, on aura plein d'émissions, Stéphane, pour rattraper tout ça. En tout cas, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à la technique. Merci à l'antenne, pareil, pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Et tout de suite, un message de notre partenaire.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, on peut les acheter, pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.